Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h21 en direct dans Europe Soir, le débat du Club des Idées. Un plan de relance à 100 milliards d'euros. Mais pourquoi faire et pour quel résultat? On en débat ce soir jusqu'à 19h50 dans le Club des Idées, donc avec nos invités. On peut s'acheter beaucoup de choses avec 100 milliards. Mais peut-on relancer la France? Compétitivité, pouvoir d'achat, emploi, le compte n'y est pas, disent ce soir certains économistes. Alors qu'en est-il vraiment? Les entreprises qui sont chouchoutées joueront-elles le jeu? On en parle ce soir avec l'entrepreneur Philippe Manière, qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs dans le Club des idées d'Europe Soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
On en parle avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Bonsoir Jean-Hervé. Et on en parle également avec Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés. Avant de vous entendre, peut-être d'abord un premier mot du Premier ministre Jean Castex qui présentait tout à l'heure les mesures détaillées de ce plan de relance à 100 milliards.
Une ambition et une ampleur historique. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. 7, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens.
Voilà, Jean Castex, Premier ministre, c'est historique, c'est un plan massif, c'est le plan le plus important européen. D'abord, on est d'accord là-dessus, Jean-Hervé Lorenzi?
Oui, les 100 milliards, on ne va pas trop les détailler, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment 100 milliards, mais c'est un plan très important.
Et puis 100 milliards, je le répète depuis 18 heures, hein, 100 milliards sur 2 ans, c'est 50 milliards plus 50 milliards.
Voilà, puis on a remis les 11 milliards des investissements d'avenir. Puis... Non, mais c'est très important. L'essentiel, c'est que l'ordre de grandeur y est.
Oui.
Maintenant, de là à dire qu'on est meilleur que les autres, je me méfie toujours de ce genre de choses.
Est-ce que vous diriez que c'est un plan de relance? Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est un plan de compétitivité, Philippe Manière.
Je crois que ce n'est pas complètement faux et moi c'est ce qui me réjouit, c'est-à-dire que je crois assez peu à la vertu des plans de relance, il faut en faire parce qu'il y a une demande politique, il faut en faire parce que naturellement quand il y a un choc économique on doit essayer de l'amortir, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur l'efficacité des plans de relance d'un point de vue conjoncturel. Donc à mon avis...
Ça ne va pas marcher, c'est ce que
non,
vous dites.
Non, ce que je dis c'est que le meilleur usage qu'on puisse faire d'un plan de relance à vocation conjoncturelle, c'est d'en faire quelque chose qui a des vertus structurelles. Pardon, hein, je ne veux pas donner l'impression que je jargonne, mais conjoncturel, ça veut dire est-ce qu'on fait un pansement pour guérir un mal qui a... Mais au-delà, on a une difficulté, on a une maladie, et donc il faut essayer de profiter de ce qu'on met le pansement pour contribuer, si possible, à ce que le malade se porte mieux au-delà. C'est plus un plan de compétitivité, et moi, c'est ce dont je me réjouis. En tout cas, c'est au moins pour partie un plan de compétitivité, et je trouve que c'est bienvenu, c'était même très attendu depuis très longtemps.
On va prendre les choses dans l'ordre, mais sur les entreprises, il y a quand même des mesures structurelles. 20 milliards de baisse d'impôt de production, poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse de la fiscalité foncière, le maintien du chômage partiel, et puis les aides, ça c'est pour un temps donné, les aides pour les emplois jeunes, mais ça participe quand même à aider les entreprises. Donc il y a quand même des mesures structurelles qui vont baisser le coût du travail en France et baisser le coût de production.
Oui, alors ça a été bien documenté par l'OFCE puis par l'INSEE, c'était les ménages, et c'était bien normal, qui avaient de très loin le plus bénéficié du plan, vous savez, le précédent plan qu'il y a eu au printemps. Les ménages ont été très fortement bénéficiaires de ce plan, en particulier avec le chômage partiel. Il y a eu toutes sortes de mesures qui ont été prises à ce moment-là et les entreprises en avaient eu très peu. C'est elles qui, dans le fond, avaient encore le plus de souffrance après plan de printemps de la crise. Donc là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que là, cette fois, on traite les entreprises qui n'avaient pas été vraiment traitées lors du plan du printemps.
Est-ce qu'il est bien calibré, Thomas Porcher, ce plan de relance? Alors, 100 milliards d'euros, vous êtes membre du collectif des économistes atterrés.
La première chose, c'est déjà qu'on parle de transition énergétique, de relocalisation des industries et de cohésion sociale. C'est une bonne chose, hein, parce qu'on n'était pas si nombreux à en parler. Avant, on parlait surtout de mondialisation, de compétitivité vis-à-vis de ses
voisins.
Preuve
que ça commence à infuser.
Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Mais après, moi, il y a quand même un certain nombre de mesures qui m'inquiètent, parce qu'il y a des mesures pérennes. Par exemple, la baisse des impôts supplémentaires aux entreprises. Il y en a déjà eu beaucoup, des baisses des impôts ces dernières années. Pourquoi on doit mettre ça? Bon, certes...
Pas de baisse d'impôts de production qui est, paraît-il, un vrai handicap pour les entreprises françaises.
Oui, mais ces dernières... l'impôt de production, il est stable ces dernières années. Par contre, les subventions à la production, elles ont augmenté fortement. Et quand on regarde l'impôt net de subvention, eh ben, il diminuait depuis 7 ans. Pareil, alors est-ce que ça a eu un effet génial sur les relocalisations? Je ne suis pas si sûr que ça, puisque finalement, on a perdu beaucoup d'industries ces dernières années. Donc il y a un gros point d'interrogation sur ces mesures.
Oui.
Si ça fonctionne, moi j'espère que ça fonctionne, je demande que ça. Si la baisse de l'impôt de production permet de relocaliser, moi je suis très content. Mais il y a un point d'interrogation. On demande des contreparties orales aux entreprises, il n'y a pas de contraintes. Contreparties, on espère qu'elles vont bien faire, Mais si elles font mal, bah, rien ne se passe.
Alors, Jean-Hervé Lorenzi, je ne sais pas qui disait, parce que je reviens à ma question première, est-ce que c'est un plan de compétitivité ou véritablement un plan de relance ? Je ne sais pas qui disait ce matin, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait quelque chose de fort intéressant. Il dit, il n'y a rien de keynésien là-dedans. Il n'y a pas du tout de relance là-dedans. Il y a des mesures structurelles
Si vous me permettez, on est obligé d'aller tout petit peu plus loin. Ces 100 milliards, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe, mais c'est plus amusant quand on n'est pas d'accord. C'est un plan, évidemment, c'est un plan de relance, tout simplement parce que l'idée, c'est ce plan de l'offre. C'est un plan d'offre.
Pro-business.
Non, d'offre. Mais il est, dans l'esprit, j'imagine, de nos gouvernants, associé à une deuxième partie de l'opération, qui est une partie plus compliquée, d'ailleurs beaucoup plus difficile que la première, et consiste à faire que la demande, non pas soit soutenue, mais que ce qu'on constate et qui est absolument majeur, c'est cette concentration d'épargne dite de précaution, c'est-à-dire cette peur que les Français ont de l'avenir, se dissolve progressivement, tout simplement, parce que, en réalité, vous n'avez pas de plan qui marche si elle ne marche pas sur les deux jambes. Il faut de l'offre et de la demande. Je vais être pédant un instant, mais quand on dit c'est pas keynésien, c'est post-keynésien, c'est Caldor, offre, demande, les deux choses ne marchent pas sinon. Et donc, j'imagine que le deuxième volet de cette opération, c'est essayer de mettre suffisamment un climat de confiance pour que ces 100 milliards d'épargne qui ont été constitués cette année arrivent à se renouveler. Oui, j'ajoute juste un point. Il y a quelque chose qui me surprend, parce qu'il faut quand même le critiquer un instant. C'est, je vais très vite, c'est qu'il manque un point que je ne comprends pas. C'est incompréhensible pour moi, c'est toute la partie logement qui est... Je veux bien qu'on s'occupe du thermique dans les logements, mais il faut d'abord loger les gens.
Vous savez quoi, Jean-Hervé Lorenzi, on en parle dans quelques secondes. On se retrouve juste après la pause pour parler de ce plan de relance et notamment des contreparties à ces baisses d'impôts pour les entreprises. Certains en réclament, il n'y en a pas. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours dans le studio d'Europe Soir pour le débat du Club des idées. On parle évidemment de ce plan de relance à 100 milliards d'euros avec nos invités. L'entrepreneur Philippe Manière, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés. Alors, on évoquait juste avant ce choc d'offres pour les entreprises, la baisse notamment d'un certain nombre d'impôts, 35 milliards d'euros qui vont directement aux entreprises. Alors, question, fallait-il des contreparties à ces baisses d'impôts ? Certains le réclament ce soir. Écoutez par exemple Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT.
Les moyens financiers qui sont alloués sont très conséquents, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que cet argent va être bien utilisé sur préservation de l'emploi, transition écologique. Il faut qu'il puisse y avoir des garanties. Et donc la CFDT propose au gouvernement que ces aides publiques, elles fassent l'objet d'une discussion, d'un débat dans les entreprises et que les représentants du personnel puissent donner leur avis sur la façon dont ces aides sont utilisées. C'est un élément extrêmement important.
35 milliards pour les entreprises, c'est du jamais vu, hein, Philippe Manière, de cette manière-là. Est-ce qu'il fallait des contreparties comme le réclame la CFDT ?
Non, mais je vois bien en quoi on est tenté de dire ben, on vous donne de l'argent, soyez gentils d'en faire bon usage. La vérité, c'est qu'un chef d'entreprise, il fait ce qu'il peut en permanence. Il n'a jamais de plaisir à licencier ou à ne pas recruter, mais il ne va jamais non plus recruter ou s'abstenir de licencier pour faire plaisir à la puissance publique. Il optimise ses moyens de production et de temps en temps, ça veut dire recruter, de temps en temps, ça veut dire ne pas recruter,
mais
voire
vous
licencier.
Vous souvenez ce qui s'est passé avec le CICE, 40 milliards d'euros mis sur la table, ça a préservé 100 000 emplois.
Alors, le CICE, ça venait corriger des hausses d'impôts qui avaient précédé, donc on revenait en quelque sorte à une fiscalité qui préexistait, qui était déjà relativement lourde. Ce n'était pas un cadeau, c'était une correction d'une surfiscalité qui avait été infligée.
Ah,
bien sûr, ça a coûté cher, puis maintenant, ça se transforme en allègement de charges. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est vraiment un faux débat de demander des contreparties. Encore une fois, aucun chef d'entreprise va se dire « c'est super, on me fait des baisses d'impôts, je vais augmenter mes dividendes ». Alors c'est très 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 marginal. L'idée que de ce plan, comme de tout ce type, tous les plans de ce type-là, c'est de dire « on va réunir les conditions pour que les entreprises se portent mieux, soient plus promptes et plus de bonnes dispositions à recruter et se trouvent moins en situation de licencier ». C'est tout, ce qu'on peut faire.
D'insister, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, est-ce que ça va vraiment relancer notre attractivité ? Je voyais ce que disait Patrick Artus, patron de la banque de la recherche chez Natixis ce matin. Il disait ceci, les entreprises paient aujourd'hui 5 points de PIB d'impôts supplémentaires comparés à leurs concurrents. Avec ce plan, on corrige le problème à hauteur de seulement 0,4 points. Ça veut dire que l'Allemagne, même après ses baisses d'impôts, elle est toujours beaucoup plus compétitive que nos entreprises.
Bon, écoutez, je ne vais pas dire que mon ami Patrick Artus n'a pas raison, il a forcément raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pari. La vie, c'est des paris. Il y a le pari, c'est que la situation économique sera extrêmement compliquée, que c'est évidemment des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui risquent de faire faillite, et que donc il faut quelque part les aider. On peut faire un pari inverse, mais ce pari, c'est celui-là. Alors si on fait ce pari, comme tous les paris de la vie, ils peuvent se révéler inexacts. Moi, je suis convaincu que c'est ce qu'il fallait faire, mais je suis convaincu aussi de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette idée qu'il faut arriver à débloquer l'épargne des Français, qui est c'est la vraie contrepartie de l'opération.
Créer la confiance pour que les Français consomment. Thomas Porcher, il fallait des contreparties pour terminer simplement sur le volet entreprise.
Moi, je pense que l'État ne peut pas être qu'un assureur comme ça, donc il faut des contreparties, parce que là, l'État, c'est l'argent de tout le monde. Alors, bien sûr qu'il fallait aider les entreprises, parce que là, elles subissent un choc et il fallait les aider. Mais il faut des contreparties pour pas que... Parce qu'on ne peut pas que parier avec l'argent des Français. Parce que regardez ce qui se passe. Comment on va rembourser ce plan? On ne va pas le rembourser en allant chercher des fonds avec de l'impôt supplémentaire. On va le rembourser avec de la croissance. C'est ce que dit le gouvernement. Avec de la croissance, on va le rembourser. Et s'il n'y a pas de croissance, qu'est-ce qui se passe? Ça va être comme en 2011, tournant de la rigueur. On va se dire, écoutez, il faut aller chercher ça sur la dépense publique. Et on va faire des coupes ou, comme on l'a fait, dans l'hôpital, dans l'éducation, à droite et à gauche. Et je ne suis pas sûr que ce soit la solution, parce que si on a été impréparé face à la crise du Covid, c'est parce qu'il y avait eu quand même des coupes drastiques dans les collectivités territoriales et à l'hôpital. Rappelons-nous ça.
Alors, Philippe Manière, hausse les sourcils, vous n'avez pas l'air d'être d'accord, Philippe.
Non, ce n'est pas vrai. Quand vous regardez la dépense publique, la France a même cette particularité qu'elle est le seul pays où elle n'a jamais cessé d'augmenter. Donc après, on peut toujours dire qu'il faut en faire plus, mais quand on est déjà le pays qui a fait le plus de dépenses publiques au monde, l'idée qu'il faut en faire plus pour guérir le malade me paraît quand même difficile à défendre. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Artus a raison de dire que ça n'est qu'une partie, mais d'abord il faut toujours un commencement à tout, et surtout moi je voulais insister sur le fait, parce que vraiment je ne m'attendais pas à cette bonne nouvelle du point de vue de l'économie française, le choix des impôts de production, la diminution des impôts de production, même s'ils ne représentent qu'un dixième de la surfiscalité, c'est un impôt qui est terriblement destructeur. Oui. Pourquoi ? Faut le dire aux auditeurs, les impôts de production, personne ne sait ce que c'est la CVE, c'est machin, etc. C'est des acronymes, on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des impôts qu'une entreprise, et surtout une entreprise industrielle, parce que l'assiette, c'est les actifs, donc c'est les machines, les bâtiments, doit payer avant même d'avoir tourné la clé le 1er janvier. Vous en êtes redevable à raison de ce que vous mobilisez pour faire tourner la boutique. Mmh. C'est délirant de taxer les gens là-dessus sans même savoir s'ils vont gagner de l'argent.
Mais même avec 20 milliards de baisse sur 2 ans, le différentiel avec l'Allemagne est encore de 80 milliards d'euros sur l'impôt de production.
Non, il a quand même diminué beaucoup. Oui, bien sûr, les Allemands ne sont pas fous. Ils ne taxent pas autant sur l'impôt de production. Et devinez quoi ? Eux ont à peu près deux fois plus d'industrie que nous. Ça n'est pas par hasard. Et donc, moi, je crois vraiment que la disparition de la petite usine dans la petite ville, c'est un fait sociologique majeur et terriblement destructeur pour le pays. Si on peut enrayer ça, voire retrouver un peu d'appareil productif industriel, franchement, on aura rendu service au pays bien au-delà même de l'économie.
Dans un instant, on continue le débat et on parle de la transition écolo. Et puis, qui paiera l'addition ? Vous avez amorcé le débat, Thomas Porcher. On continue d'en parler juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on continue de parler du plan de relance à 100 milliards d'euros, présenté et détaillé aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex, 19h38. On est toujours en direct dans le Club des idées d'Europe Soir avec nos invités, l'entrepreneur Philippe Manière, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, Thomas Porcher, le membre du collectif des économistes atterrés. Avant de parler de la transition écolo et des annonces qui ont été faites en ce sens, et puis de la facture qui paiera l'addition à l'arrivée, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse aux TPE, les petites entreprises. Écoutez ce que disait à notre micro tout à l'heure Jean-Guilhem Darré, c'est le délégué général du syndicat des indépendants, et puis vous réagissez après.
Pour nous, il est très clair que les TPE, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ont été oubliés dans ce plan de relance. Il n'est un secret pour personne que les TPE sont les entreprises les plus fragiles en termes de trésorerie. Donc naturellement, dès que l'économie commence à tanguer un peu, ce sont les TPE qui sont en première ligne pour risquer malheureusement de fermer leurs portes.
Voilà, il y a plein de gens qui nous écoutent sur Europe 1, qui sont des petits patrons, des artisans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir ? Qui veut répondre ? Thomas Porcher, Jean-Hervé Lorenzi. Thomas Porcher,
allez-y. Je vois depuis tout à l'heure, on parle que de ça, de compétitivité, on compare à l'Allemagne. Donc on parle comme si on était que concerné par les grands groupes. En réalité, les petites entreprises, leur concurrence, elle est locale. Et ce qu'ils veulent en premier lieu, eux, c'est qu'il y ait un carnet de commandes et donc qu'il y ait de la demande, qu'il y ait des gens qui viennent acheter. Or, il n'y a rien dans ce plan de relance pour stimuler la demande. Il n'y a rien du tout. Alors, il y a le chômage partiel, effectivement. Il y a 800 millions, je crois, d'aide un petit peu aux ménages précaires, c'est-à-dire 0,8% du plan, hein. C'est rien du tout. Donc il n'y a rien. Donc si la demande ne repart pas, quand vous voulez vous, que ces gens ils puissent employer, produire, etc.
C'est un bon
donc,
point ça. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Hervé Lorenzi, du Cercle
des
économistes ?
Que j'aurais pu, en entendant le premier mot de Thomas démarrer, je savais ce qu'il allait dire à la fin. Donc pas de surprise. Vous savez, c'est pas très intéressant de s'interroger sur ce plan qui, objectivement, est pas mal fait. Donc on va pas y passer 10 ans. Il est bien fait, il va faire de la transition écologique. Il est, comme toute chose humaine, critiquable. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va faire à côté. Alors, Thomas, la réalité, c'est qu'il faut arriver à mobiliser pour la consommation l'épargne qui a été réalisée pendant... C'est pas facile.
Mais attention, cette épargne, elle est dotée de manière inégalitaire.
Sur les comptes,
deuxième
alors.
Sujet
les gens qui gagnent
énorme,
moins de 1500 euros n'ont pas d'épargne.
Alors, deuxième sujet énorme, il faut essayer de voir que ce problème ne résout pas tous les sujets. C'est humain. Il ne résout pas le problème de ces entreprises qui, ou mini-entreprises qui ont fait l'objet de prêts, qui ont été garantis par l'État, et qui, ces prêts, comme vous savez, ce sont des prêts de court terme, et donc ils vont être incapables, pour beaucoup d'entre eux, de rembourser dans les 6 mois qui viennent. Donc c'est le sujet maintenant qu'il faut essayer de résoudre. Par ailleurs, bien entendu, on est d'accord sur le fait qu'à un moment, il faut une demande. Il se trouve que ce plan fait un pari. Il faut d'abord protéger l'appareil productif français. Et sur ce plan-là, objectivement, ils ont raison.
Philippe Manière.
Non, je voulais d'abord faire observer à Thomas que si on s'intéresse aux grands groupes, et Thomas a raison de dire qu'il ne faut pas s'intéresser qu'à eux, c'est parce que souvent, les commandes des TPE, les commandes des ETI, c'est les grands groupes. Et donc, le
je
fait que les grands groupes restent français qui ne disparaissent pas, c'est intéressant pour le petit chef d'entreprise français parce que, in fine, si on perd le CAC 40, il n'y aura plus personne qui achètera ces trucs et ces machins.
Pardon, nous sommes d'accord.
Direct, hein, voilà. Donc, deuxième chose, moi, je suis sensible à la question des indépendants et en particulier des commerçants. Il faut quand même bien voir que ceux qui ont souffert les premiers en nombre, du confinement, bah, c'est les gens qui ne pouvaient plus vendre. Et ça a duré pour certains, il y en a certains pour qui c'est encore le cas. Les hôtels, les restaurants qui ne peuvent pas ou qui ouvrent très marginalement. Bon, ces gens-là, effectivement, ils en ont pris plein la tête. Donc, on aurait pu imaginer un dispositif spécifique s'il n'y en avait pas eu déjà un. C'est-à-dire que, pardon, mais je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a eu des choses qui ont été faites en marge. Je le disais tout à l'heure pour les ménages, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et c'était bienvenu. Il y a eu des choses qui ont été faites, voilà. Il y a des choses qui ont été faites aussi pour les commerçants, pour les indépendants, qui ont eu 50% du chiffre d'affaires moyen s'ils avaient perdu plus d'eux, etc. Donc, il n'y a pas rien pour eux, mais il n'y a rien dans ce plan-là, rien de spécifique. Eux aussi, ils payent aussi des impôts de production quand même. Il ne faut pas oublier. Moins, évidemment, qu'une grosse entreprise industrielle, mais eux aussi vont bénéficier d'un petit allègement à ce titre. Mais c'est vrai que moi, je suis très inquiet sur le commerce. Je pense qu'il faut avoir en tête que, entre octobre et décembre, on va voir fermer, pardon, hein, parce que ça va se voir, ça va être, c'est pas seulement théorique, on va voir fermer des centaines et des centaines de boutiques, de commerce, etc. Alors, c'est à peu près inévitable à mes yeux.
J'ai une question connexe.
Mais ça va faire mal.
J'ai une question connexe brièvement, juste sur l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil tout de même, l'absence de moyens forts sur la formation ? On sait que c'est l'un des grands enjeux de demain pour l'emploi. D'un côté, on a plus de 4 millions de chômeurs, de l'autre, on a 200 000 emplois à peu près non pourvus. Et on estime qu'au vu de l'économie et des secteurs aujourd'hui en crise, il y a 2 millions de personnes qui vont devoir changer de job. Comment est-ce qu'on fait quand on est viré d'Airbus pour rebondir chez Sanofi ou Apple ?
Je rebondis sur votre question, mais je la traite autrement. Moi, ce qui m'a, toujours dans ce plan, il a été dit qu'il y a, en gros, il y a 7 milliards qui sont pour les jeunes. Moi, le problème, j'allais dire, numéro un de l'augmentation du chômage, c'est évidemment les jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, qui n'auront pas de boulot. Et il y a des dispositifs qui ont été pris, mais il est dit, c'est l'universitaire qui parle, qu'on crée 200 000 formations. On va former 200 000 jeunes pour des métiers qui sont des métiers à venir. Je ne vois pas encore concrètement comment on va faire. Moi qui suis universitaire, j'en ai discuté avec pas mal de présidents d'université, personne n'a encore entendu parler du dispositif. Or, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est maintenant.
Bien. Qui paiera ? On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir dans le débat du Club des Idées, le plan de relance en question, 100 milliards d'euros, pourquoi faire ? On continue d'en parler avec nos invités, l'entrepreneur Philippe Manière, Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés, et Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Alors on va évoquer cette question du coût et de l'addition. Qui paiera à la fin ces 100 milliards d'euros ? Peut-être d'abord, Jean-Hervé Lorenzi, un mot sur la transition écolo. Le président de la République nous avait promis une économie verdie et un nouveau virage du quinquennat avec ce plan de relance. 30 milliards d'euros seront donc dédiés à la transition écolo. Est-ce que le compte y est ?
En tout cas, je veux dire, c'est énorme, 30 milliards. Moi, je veux bien que ce serait mieux pour les écolos si c'était 40, ce serait moins bien si on n'est pas écolo et si c'était 25. C'est un chiffre.
Pour que chacun le comprenne, c'est 30 milliards pour la rénovation des maisons et des appartements et des bâtiments, pour la relance des lignes SNCF avec le fret, les trains de nuit. Bon, ça, c'est cosmétique, mais quand même. De l'argent sera aussi consacré au développement de la filière vélo. Et puis, je crois que c'est à peu près tout.
Un peu d'agroalimentaire.
Et un peu d'agroalimentaire pour la transition vers le bio. Et le Conti.
Je veux dire, le Conti. Enfin, c'est tous ces chiffres sont en réalité très importants. Donc,
je trouve que c'est très compliqué d'expliquer. Ça fait un virage écolo, ça, Philippe Manière ?
Non, mais ça tombe bien, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que moi, je trouve très normal, compte tenu des circonstances et de la nécessité qu'on connaît tous, qu'il y ait un twist écolo, si je peux me permettre, à un plan de relance. Enfin, c'est pas un plan écolo, c'est un plan de relance. Et donc, qu'on essaye de flécher vers ce qui a aussi des vertus écologiques, c'est bien, mais il faut pas se trouver dans la situation de dépenser de l'argent qui est moins efficace par rapport aux besoins objectifs de l'économie française, juste parce que c'est écolo, parce que sinon on dessert le pays. Donc c'est formidable l'écologie, il faut en faire, mais il ne faut pas en faire tellement qu'on rate l'objectif. Mmh. Donc moi je trouve que le dosage est pas mal, et je suis assez inquiet moi sur les histoires d'isolement des logements, parce que comme vous savez, c'est vraiment une usine à gaz. En gros, ceux qui en ont le plus besoin, c'est les ménages, qui statistiquement sont locataires, et donc on va donner de l'argent aux propriétaires. Enfin, je ne sais pas comment on va sortir. C'est vrai, si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas seulement parce que les gens sont méchants, c'est parce que c'est très difficile de donner la subvention à quelqu'un qui va en avoir l'usage, de faire que celui qui va faire des économies de chauffage puisse en bénéficier, mais que ce ne soit pas le propriétaire. Enfin, vraiment, c'est compliqué. J'espère qu'on aura des détails, mais
certains disent même que les matériaux pour la rénovation sont pas très écolos pour leur fabrication.
Mais fou, et puis les importations sont nombreuses. Et puis voilà, donc c'est pas si génial qu'on dise.
Thomas
Rien n'est génial facilement.
Thomas Porcher.
Oui, tout à fait. Là, je suis assez d'accord. La transition énergétique, c'est quelque chose qui nécessite vraiment qu'on relocalise une grosse partie des industries pour qu'elles soient parfaitement écologiques. Après, la rénovation des bâtiments, c'est vrai que les subventions ou les crédits d'impôt ont une certaine efficacité, mais avec beaucoup d'effets pervers. Mais il faut dire une chose, c'est que la rénovation des bâtiments, comme elle a été faite dans d'autres pays, en Allemagne, a des effets multiplicateurs importants. Quand vous investissez, vous créez de l'emploi qui n'est pas délocalisable, pour une bonne raison. Et puis quand on dit que le bâtiment va, tout va. Donc ça peut être quelque chose de
l'adage devrait se confirmer.
Tout à fait.
Qui paiera ?
Pour le moment, on nous dit que c'est personne. Évidemment, il ne faut jamais croire au conte de fées. Hein. Donc, c'est jamais personne qui paye. Ce sera quelqu'un qui paiera. Alors, ce sera normalement nos enfants.
Il n'y a pas 50 solutions, Philippe
Manière.
C'est soit les impôts, soit la réduction du train de vie de l'État, soit on efface les dettes.
Alors, la réduction du train de vie de l'État, ce serait à mes yeux la meilleure solution, en tout cas en longue tendance. Ça n'est pas du tout ce qu'on fait en France, jamais. Les impôts, on vient de nous dire que ça ne serait pas le cas, en tout cas pas avant un moment. Et donc, ce sera la dette. Alors, la dette, tout le monde dit, c'est pas grave, on peut en faire autant qu'on veut, elle est gratuite. Je ne crois pas du tout à ces histoires-là. Je pense qu'un jour, ça se paiera. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis heureux que ce plan de relance soit considérable, mais pas délirant
sur
en volume.
Sur cette question, on ne peut pas l'effacer, la dette ? C'est pas possible,
non, ça n'a aucun sens. Si vous effacez la dette, plus personne ne vous prêtera jamais. Enfin, y a pas... Si c'était vrai tout ça, pourquoi on n'aurait pas déjà emprunté des dizaines de milliards au fil du temps ? Enfin, et pourquoi tout à coup les gens se disent « Non, mais maintenant j'y pense bien, il n'y a pas besoin de rembourser. » Ce n'est pas vrai. Une dette, ça se rembourse, ou bien vous ne trouvez plus, plus de prêteurs.
Mais on sent que les garants de l'orthodoxie budgétaire à Bruxelles ont quand même desserré les taux.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils disent les choses moins fort que c'est moins vrai. Peut-être qu'il faut se donner le temps, peut-être qu'il faut tenir compte du fait que l'argent ne coûte pas cher et qu'on peut se permettre d'emprunter un peu plus que ce qu'on pensait, ça oui. Mais quant à dire que c'est plus la peine de compter, là on passe chez les dingues. Donc une dette se rembourse et si on pense le contraire, on aura de mauvaises surprises.
Donc au bout du bout, c'est comme dirait l'autre, c'est nous qui paierons.
L'important c'est qu'une dette soit soutenable. C'est pas pareil que rembourser, c'est qu'elle soit soutenable. Une dette, elle roule dans le temps. Alors tout est relatif. Bien sûr que si nous, notre dette augmente de 40 points et qu'à côté, elle baisse de 30 points, là, il y a un gros problème. Mais comme là, les dettes augmentent systématiquement dans la majorité des pays, sauf peut-être l'Allemagne, mais aux États-Unis, ils ont 100% de dette, plus de 100%, nous aussi. Quand vous regardez sur les 10 dernières années, elle a augmenté plus vite au Royaume-Uni que chez nous, même s'ils ont en dessous de dette. Au Japon, vous avez plus de 250% de dette. Donc, vous voyez, il faut quand même...
Mais c'est ce qu'on disait avant la crise des dettes européennes.
La dette, c'était une épée de Damoclès. C'était une justification. C'était une justification pour faire des économies sur la dépense publique, pour réformer le marché du travail. Enfin, la dette, c'était vraiment l'excuse.
Donc,
voilà.
Mais
vous aviez quand même beaucoup...
Pardon ? Les 100 milliards, qui paiera ?
Non, mais les 100 milliards, ce qui me fait très peur, c'est que là, on nous dit que c'est avec la croissance économique qu'on arrivera à les engloutir. Parce que vous savez, si vous avez beaucoup de croissance, votre PIB augmente plus vite que votre dette, donc votre dette libellée en PIB
vous
est plus faible.
Vous êtes d'accord, Philippe
Manière, je finis là-dessus. Je n'y crois pas, moi. Moi, ce qui me fait peur, je connais le scénario. Je ne vois pas les gens se dire, écoutez, la dette, on va la faire rouler parce que la dette augmente partout. Je ne vois pas nos dirigeants faire ça. Je pense qu'ils sont aussi inquiets que Philippe en face. Donc, je pense qu'ils vont nous dire, écoutez, les amis, il va falloir rogner à droite et à gauche pour donner des gages à Bruxelles, comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire des coupes sur la dépense publique.
Ils ne vont pas le faire maintenant, Thomas.
Non, parce pas, que, maintenant, voilà, pas maintenant. Vraiment, mais dans 2-3 ans, ils vont le faire.
C'est possible.
Voilà. Bien, voilà. Et on va finir là-dessus. Merci, messieurs. Merci à tous les trois, le temps qui nous était donné. Et maintenant, terminé. Philippe Manière, vous reviendrez dans le Club des Idées. Puisque,
avec plaisir.
Vous êtes éditorialiste maintenant, d'une certaine manière, du Club des Idées.
Formidablement ronflant.
Mais ça marche. Merci à vous trois.